trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Julien Kiss-Rebert est avec nous, gérant chez Taylor Asset Management. Bonsoir Julien.
Bonsoir.
Mabrouk Chetouane nous accompagne également, le responsable de la stratégie marché globaux de Natixis IM. Bonsoir Mabrouk.
Bonsoir.
Et Xavier Chappard, stratégiste chez LBPM, est à nos côtés également. Bonsoir Xavier.
Bonsoir Grégoire.
Parlons du dollar. Du dollar et des taux souverains américains. Je notais, depuis le 18 septembre, le 10 ans américain a repris plus de 50 points de base. Maintenant, on était à 3,70, on est à 4,25 aujourd'hui. Et le dollar n'a cessé de se réapprécier. Je crois qu'on a dû tutoyer sur l'euro-dollar quasiment 1,12 à un moment au cours du mois de septembre. On se retrouve aujourd'hui à moins de 1,08. Qu'est-ce qui se joue derrière la fermeté du dollar et la remontée des rendements souverains américains, Xavier?
Alors pour moi, il y a deux gros facteurs. Il y a le repricing des baisses de taux de la Fed. Après les bons chiffres qu'on a eus, le marché anticipe beaucoup moins de baisses de taux de la Fed. C'est même un peu limité, alors qu'ils exagéraient après la baisse de 50 points de base de la Fed en septembre. Là, maintenant, il n'y a même plus deux baisses de taux totales pricées pour la fin de l'année, et surtout pour l'année prochaine, il y a aussi beaucoup moins de baisses de taux pricées. Et la deuxième chose, c'est la remontée de Trump dans les probabilités de victoire pour les élections américaines, ouais. Et notamment pour le dollar, ça c'est un très fort soutien, vu que toutes les politiques que prévoit Trump sont pro-dollar, même si lui officiellement dit je voudrais un dollar plus faible, tout ce qu'il propose est plutôt renforcé.
Va dans l'autre sens. Ouais.
Voilà.
Ah ouais. Sur la Fed, qu'est-ce que vous dites du repricing? Est-ce que les données justifient effectivement ce mouvement de marché de réduire le nombre de baisses de taux attendues de la part de la Réserve fédérale américaine?
Alors, c'est vrai que toutes les dernières données qu'on a sont plutôt plus fortes qu'attendues, que ce soit côté inflation ou côté consommation,
activité.
Donc ça explique pourquoi il y a ce repricing. Il y a aussi le fait que les marchés avaient exagéré après la première baisse de taux de 50 points de base. C'était quasiment sûr que la Fed allait continuer à baisser ses taux à ce rythme-là.
On avait pris le pas de 50 comme étant un pas normal.
Un petit peu.
D'accord,
voilà.
Ok.
On observe beaucoup d'oscillations dans les anticipations parce qu'il y a une incertitude sur la vitesse à laquelle la Fed peut baisser ses taux et aussi jusqu'où elle peut les baisser, à quel niveau. Et donc tout ça, ça fait qu'on a ces gros mouvements sur les taux américains. Ce qui est amusant, c'est qu'ils ne se transmettent pas vraiment sur la courbe. En fait, tous les taux, que ce soit les taux courts ou les taux longs, bougent à peu près en même temps, ce qui montre cette incertitude. Voilà. Et nous, on trouve qu'au niveau actuel et avant les élections américaines, ça devient intéressant de revenir sur les taux longs américains.
D'accord. Le marché a peut-être été un peu loin de ce point de vue-là. Alors, je ne sais pas si la Fed continuera avec des pas de 50. Ce n'est pas ce que le marché attend et même, j'imagine, ce que la Fed prévoit aujourd'hui. En revanche, le pas de 50 est adopté par d'autres banques centrales. Hein. J'ai vu il y a quelques temps, je crois que c'était la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Là, c'est la Banque centrale du Canada qui avait fait 3 fois 25 et là qui fait 1 fois 50. Et puis, on a une probabilité pour une BCE qui baisserait de 50 en décembre qui est en train de s'équilibrer autour de 50-50, quoi.
Oui, c'est vrai que, alors autant j'y croyais pas du tout que la BCE puisse baisser de 50 points de base ses taux en décembre. J'y crois toujours pas, mais je l'exclus plus.
D'accord.
Notamment parce que les discours des banquiers centraux, que ça soit là en ce moment, il y a les réunions du FMI, et donc il y a beaucoup de banquiers centraux qui parlent, et on voit que même Lagarde n'a pas fermé la porte. Elle a dit, on regardera les données et tout ça, mais elle n'a pas fermé la porte.
Le sens du voyage est clair, le rythme est encore à définir.
Exactement. Et Villeroy de Gallo, donc le président de la Banque de France aussi, a dit à peu près la même chose. Et puis d'autres membres de la BCE. Ouais. Donc, on voit qu'il y a une tentation, on va dire. Cela dit, il semble quand même qu'il faudrait des très mauvaises surprises, notamment demain avec les PMI, on va voir. Mais si on n'a pas de très mauvaises surprises, ça serait quand même étonnant que la BCE accélère autant.
Il faudrait que le flux de données change fortement par rapport à ce qu'on anticipe déjà aujourd'hui.
Exactement.
D'accord. Mario Centeno aussi, hein, je crois le portugais, qui a dit ce sont les données qui dicteront si nous devons faire 25 ou 50 en décembre.
Tout à fait. Voilà.
Bon, sur ces histoires de banque centrale, je reviens à la question du dollar et des taux américains, mais effectivement, c'est aussi un jeu un peu différentiel entre la Fed et d'autres banques centrales dans le monde. Qu'est-ce que vous dites du repricing que le marché a effectué ces derniers temps, à savoir la BCE ira plus vite, plus fort que ce qu'on imaginait, la Fed, quant à elle, sera peut-être un peu plus sur la retenue?
En fait, je pense que c'est vraiment une question de communication concernant la Fed. Est-ce que donc la BCE ira plus vite et plus fort? Il n'y a pas de raison. Donc il n'y a aucune raison.
Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que la BCE en fasse plus.
Non, il n'y a pas de raison à ce stade, puisque finalement, encore une fois, on a une économie européenne qui est extrêmement hétérogène. On a effectivement une économie espagnole qui croît quasiment au même rythme que l'économie américaine. Ça, on a tendance à l'oublier. Et l'économie allemande, finalement, continue de souffrir des mêmes travers, finalement, que ceux qu'on a observés l'an dernier. Donc, on aura une croissance quasi nulle cette année, comme l'an dernier. Au fond, c'est pas une surprise. Le problème, finalement, de la zone euro et de la BCE, c'est de gérer cette hétérogénéité. Donc, est-ce qu'en faire 50 de plus, enfin, faire 50 points de base de baisse de taux, ça va arranger la donne? Non, c'est pas vraiment ça qui va changer la direction, finalement, de la politique monétaire et surtout ses conséquences. Donc, ça, à mon avis, c'est pas ça vraiment le problème. Le problème, il est d'ordre stratégique concernant l'Allemagne et concernant toutes les économies manufacturières par ailleurs. Mais ce qui est très intéressant, en fait, concernant justement le si on revient sur le dollar, cet écart en fait de communication. À mon avis, le marché, et je suis d'accord, hésite effectivement concernant la Fed sur l'ampleur des baisses de taux, combien, à quel moment, etc. Et en fait, l'objectif de la Fed, il était assez clair, et je pense qu'ils n'ont pas très bien communiqué là-dessus. Bon, une fois, on peut le dire, effectivement, Paul n'a pas été tout à fait clair. C'est qu'en fait, l'objectif recherché par la Fed n'est pas d'introduire de l'accommodation monétaire pour soutenir une économie américaine, qu'on peut dire qui est quasiment sous stéroïde, hein, qui ne s'arrête pas. Hein, donc, l'idée, c'est de tout simplement ramener en fait la politique monétaire à un niveau qui est compatible avec le niveau de croissance nominal, on va dire, de l'économie américaine. On a un peu d'inflation, effectivement, donc totale et sous-jacente, un peu sous-jacente d'ailleurs, qui est d'ailleurs assez forte. Une croissance économique qui est au-delà de 2%, ça c'est clair pour tout le monde. Et donc aujourd'hui, finalement, la question, c'est de dire le taux terminal, c'est vraiment la vraie question. Il doit être où ? À la fin de l'année 2024 et à la fin de l'année 2025. Et en fait, on se rend compte que finalement, un taux terminal qui sera en dessous finalement de 4%, ça n'a pas vraiment sens aujourd'hui. Peut-être qu'il en faudrait un tout petit peu plus. Et donc ça suffit effectivement à avoir un dollar qui se raffermit, effectivement. Et par ailleurs, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que quel que soit le scénario, puisque le dollar réagit à tout un tas de facteurs, différentiels de politique monétaire, différentiels de croissance, mais également des scénarios de risque. Et on voit bien que les risques aujourd'hui sont multiples. Les risques effectivement liés à l'élection américaine, avec la possible effectivement guerre tarifaire. Alors, juste un point, la guerre commerciale engendre généralement plutôt une baisse du dollar. Donc une baisse temporaire, effectivement, on le voit à chaque fois qu'on a eu le politique qui s'est mêlé effectivement de ses affaires commerciales pour rééquilibrer toujours.
C'est un ajustement par la devise de l'augmentation des prix des importations.
En fait, toujours. C'est-à-dire qu'en gros, l'objectif final, on verra Trump communiquer là-dessus, c'est rééquilibrer ce fameux déficit extérieur. Donc ça va être une vieille rengaine qui va revenir. Nixon l'a fait. Tous l'ont fait. Et ça a provoqué la même chose à chaque fois, une dépréciation temporaire du dollar. Biden aussi s'en est mêlé. Et donc, in fine, effectivement, cette économie effectivement américaine et cette situation de risque potentiel est toujours à la faveur du dollar. Dès qu'on a finalement une situation de tension quelque part qui se manifeste, on va vers la valeur refuge. Donc en fait, aujourd'hui, tout milite pour que le dollar continue de s'apprécier ou reste à ses niveaux d'appréciation relativement élevés, que ce soit contre l'euro, contre le yen ou même contre le yuan, puisque au fond, fondamentalement, l'ennemi public numéro un des États-Unis, c'est la Chine.
Et donc, la Chine, c'est les États-Unis, peut-être.
Voilà, exactement.
Ça marche dans les deux sens.
Et vice-versa. Mais donc, le problème, c'est que... Allez-y.
Non. Je reviens à l'idée de la BCE. J'entends le point sur la Fed de dire le taux terminal n'a pas besoin d'amener le niveau de politique monétaire en zone d'accommodation. Et vous dites, pour la BCE, ce débat-là, il n'est pas...
C'est une question de trajectoire, encore une fois. C'est que la trajectoire pour la BCE est assez claire. Ils ont entamé, effectivement, des baisses de taux, pas un rythme aussi, entre guillemets, fort, effectivement, que la Fed. Ils n'ont pas éprouvé le besoin de baisser de 50 points de base le taux d'intérêt directeur. Eux, ils le font de manière plus progressive.
Et on s'arrête à 2,25 ou à 1,75?
Non, mais ils n'ont pas...
C'est-à-dire, ça fait une petite différence, quand même, à l'arrivée.
Oui, mais d'accord, mais là, vous faites l'hypothèse qu'ils vont s'arrêter quelque part en 2025. Mais moi, l'idée, en fait, ou en 2024, pardon, mais là, l'idée, en fait, c'est de dire, au fond, s'ils ancrent les anticipations en disant nous allons baisser de manière continuelle les taux d'intérêt jusqu'à la fin de l'année et, justement, sur 2025, ça suffit, en fait, à comprimer les taux.
Le signal est suffisant.
En fait, ce qui compte, c'est la com. Et le dernier point, le plus important, c'est que, en fait, on est en train
Donc, ils vont abandonner l'idée du meeting par meeting, data dependency, etc. À un moment, ils vont dropper ces petites phrases du communiqué qui laissent entendre qu'on maintiendra les taux à un niveau aussi restrictif que nécessaire tant que il le faudra.
Si ne s'améliore pas, ce qui est une hypothèse.
Elle existe toujours, cette phrase.
Oui, non, mais le problème, c'est que si la situation économique ne s'améliore pas, ce qui est un truc qu'on ne peut pas exclure, évidemment. Là, effectivement, cette phrase reviendra. Et le dernier point sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'on est en train de revivre la même situation que l'an dernier. C'est-à-dire qu'en gros, à la même époque, on avait en fait, des taux américains qui avaient atteint 5%. Je ne sais pas si vous vous en rappelez.
Oui, bien sûr.
À un moment donné, fin septembre, disait, qu'est-ce qui s'est passé octobre, oui, c'est ça.
Septembre, je crois. Ouais. Octobre, ok.
Peu importe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'était un taux d'intérêt qui était beaucoup trop élevé, effectivement, pour l'économie américaine. Et Powell était intervenu en disant, nous allons effectivement faire quelque chose. Ouais. Je pense qu'il va se passer rigoureusement la même chose cette année encore. Donc, une intervention de la Fed pour clarifier le message n'est pas clair, et donc mettre une pression baissière sur les taux longs.
D'accord.
Oui, sur les perspectives de la BCE. C'est vrai qu'à la dernière réunion, ils ont maintenu le fait de dire on fait meeting par meeting, on ne se préengage pas, on veut maintenir une politique légèrement restrictive, même si on réduit cette restriction petit à petit, tout ça. Mais on a appris après qu'il y avait eu des débats quand même. Même si la décision de baisser de 25 points de base était unanime, il y a des débats là-dessus. Et donc, ça va être dans les prochains meetings. A priori, la BCE va continuer à baisser de 25 points de base par meeting. Et devrait ajuster ce...
En décembre, elle arrêtera de nous dire qu'elle veut maintenir des taux à des niveaux restrictifs.
Je pense.
Aussi longtemps que nécessaire.
Elle continuera à dire que ça sera dépendant des données, meeting par meeting, mais elle devrait arrêter de dire que c'est restrictif parce qu'elle va s'approcher du taux d'équilibre.
Je pense que c'est vraiment le truc qui manque à la BCE, c'est d'ancrer, en fait, une direction très claire sur la politique monétaire. Ça va baisser, ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour, effectivement, avoir des conditions restrictives. On est conscient de la situation. Il faut, effectivement, avoir une politique monétaire qui soit en phase avec la réalité économique de la zone euro.
Bon, une fois qu'on a dit ça, le dollar qui remonte, Julien, non mais comment, quel signal ça envoie pour un investisseur, un gérant action, par exemple, et est-ce que ça peut être pénalisant d'avoir un dollar trop fort aujourd'hui pour un certain nombre de
Ça pays dépend, ça dépend où on investit.
Ça dépend où on est. Ouais.
Tout à fait. Non, mais juste pour rebondir là-dessus, sur ce qu'on a dit au préalable, effectivement, on a une BCE qui, à mon sens, est a envie de baisser beaucoup plus, parce que les taux réels sont beaucoup trop hauts en Europe, ça c'est une certitude. En tout cas, au vu de la croissance, l'endettement des États, etc. Donc on aurait besoin d'un peu plus de jus, ça c'est très très clair. Maintenant, on le sait toujours, se décorréler trop vite de la politique de la Fed, c'est compliqué. On le voit sur les taux de change, ce que ça peut faire. Et l'inflation importée peut quand même être un sujet pour au niveau européen. Donc globalement, je pense que la BCE voudrait baisser plus vite. Mais c'est un petit peu...
Il y a une limite à cette tentation, quoi, à cette volonté.
Exactement. Bon, après, sur les devises, c'est toujours compliqué, parce qu'effectivement, quand on a eu ces annonces il y a quelques semaines, tout le monde disait que l'euro-dollar allait partir à 1,15, 1,20. Bon, finalement, c'est toujours l'inverse.
Le marché va toujours là où on ne l'attend pas.
Sur les devises, souvent, quand tout le monde est dans une direction, en général, ça part dans l'autre.
Oui.
Sur les devises, sur le reste...
Et on trouve toujours de bonnes explications a posteriori.
Exactement. Bon, ça, c'est assez classique. Et pour revenir sur les investissements, bon, sur la partie obligataire, effectivement, nous aussi, on pense qu'il faut prendre du taux long américain, ça fait sens.
Là, revenu à 4,20, 4,25, ça redevient intéressant.
Ça redevient intéressant. Après, on verra si Trump arrive, les conséquences.
Bah oui, mais enfin, c'est demain, hein, c'est oui, ça. Oui.
Mais bon, sur ces niveaux-là, c'est pas idiot de commencer à en prendre, en tout cas. Et puis, il y a aussi le sujet éventuel au Moyen-Orient. Hein. Certains analystes disent que les bombardements sur l'Iran, ce serait plutôt post-élection. Donc,
on est assez proche
quand même de ce moment-là.
Le risque d'escalade est encore possible devant nous au Exactement. Moyen-Orient.
Et ce qu'on avait vu d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu quand même ce phénomène de flight to quality sur les govies, en tout cas, quand on a eu les premiers échanges de tirs. Et donc voilà, c'est en tout cas en protection de portefeuille, c'est pas idiot d'en mettre un peu. Et puis pour revenir sur les sociétés, je dirais que c'est assez simple, on le voit. Les actions américaines, bon, c'est un peu la palissade de dire qu'on va investir sur les actions américaines, mais force est de constater que c'est là où la croissance et l'innovation se trouvent, donc rien de nouveau. Hein. Voilà, après, le sujet, toujours, c'est jusqu'où ils peuvent aller en termes de déficit. Hein, on a vu que les chiffres qui étaient annoncés...
Ben, c'est la question.
Haut, mais apparemment, il n'y a pas de limite. Ouais. Donc, de ce côté-là...
L'exceptionnalisme américain est sans limite, de ce point de vue-là.
Pas de limite, on voit...
Parce que depuis le 18 septembre, oui, les taux ont repris 50 points de base, le dollar a monté, le S&P a pris 4%.
Ouais.
Ça n'a pas... Ça n'a pas entravé la dynamique de hausse du S&P 500. Hein.
Et parce que aussi, c'est la tech aussi qui continue d'être. Parce que si on regarde la consommation, on a des signaux un peu moins positifs. Starbucks, c'est un peu compliqué. Heineken vous dit que la consommation américaine, c'est un peu plus compliqué. On est quand même sur la consommation de base, hein. On n'est pas sur des choses excentriques. Voilà, donc on a quand même des petits signaux de tension. Sur l'immobilier, on voit que c'est compliqué. On est revenu sur des chiffres historiquement bas parce que les taux d'emprunt sont repassés au-dessus des
7%. Tout de suite. Dès que la Fed baisse ses taux directeurs, tout de suite, on voit les taux de mortgage qui remontent.
Le point positif, c'est la baisse du pétrole.
Ouais.
Qui là, on le sait, sur le consommateur américain, un effet assez rapide. Donc ça, c'était le point positif. Mais effectivement, on a les États-Unis, notamment la tech, qui continue de bien progresser. Et puis le reste du monde, où effectivement, c'est un peu plus compliqué. Et les actions européennes, les sociétés européennes qui sont très présentes sur le marché chinois, d'une manière générale, enfin asiatique, plus une économie européenne qui est un petit peu compliquée, pour ne pas dire autre chose. Bah forcément, c'est un peu plus difficile. Voilà. Mais bon, après, pour l'instant, il n'y a pas de... On a des niveaux de valorisation qui sont, je veux dire, redevenus un petit peu plus normaux.
Conformes, oui.
Normatifs. Ouais, pas de choses non plus.
Oui.
Alors, sauf petite sur les smalls.
Bah, l'écart de valo est toujours très large, quoi.
Oui, mais explique.
Oui.
Il n'a pas arrêté de se carter. Hein,
oui.
Alors qu'en gros, tout le monde parlait de la normalisation des écarts de PE, effectivement, entre les États-Unis et la zone euro. Mais encore une fois, force est de constater, comme vous dites, que depuis 2017, bizarrement, depuis l'élection de Trump, Trump épisode 1, ça n'a jamais, entre guillemets, mine révertée, comme on dit,
jamais
revenu.
Il n'y a jamais eu de résorption de cet écart de valorisation grandissant entre les actions américaines et européennes.
On connaît les biais tech, etc., donc on l'explique assez facilement, mais on aurait pu penser que finalement, même quand on prend un equal weighted, c'est-à-dire qu'en gros, quand on débiaise, entre guillemets, de ce facteur de capitalisation, on voit bien que ça s'écarte encore. Donc oui, effectivement, il y a cet exceptionnalisme américain, boosté effectivement par les 7500 milliards de projections médiane de déficit supplémentaire de Trump. Ça, c'est la projection médiane. C'est fantastique parce que la projection haute, c'est 15 000. Genre, nos limites, all in, on y va.
Et puis, si on prend sur les résultats, vous prenez les baisses de taxes proposées par Trump. C'est-à-dire, s'il y avait une vague rouge et qu'il puisse baisser les taxes sur les corporates à 15%, ça vous fait un boost de 5% sur les bénéfices du S&P. En parallèle, en France, si on regarde ce qui se passe, les propositions, ça devrait plutôt réduire de 2,5 les bénéfices du CAC l'année prochaine.
Avec des bénéfices du S&P qui sont à 15% attendus pour l'an prochain. Donc 15 plus 5, 20, on est déjà, entre guillemets, on fait du x2 par rapport à ce qui est attendu pour cette année. En moyenne, encore une fois. Donc
Trump, c'est bon pour les actions. Parce que on est d'accord, tout le monde est d'accord pour dire que c'est inflationniste, que c'est potentiellement, effectivement, négatif obligataire. Enfin, je veux dire, pour la duration et les taux longs. Mais c'est positif actions.
Je regardais, si vous prenez le dollar, les taux longs et les performances des actions américaines versus le reste du monde, ça suit exactement, depuis cet été, la probabilité de victoire dans les paris en ligne ou tout ça. Gros, on est passé de mi-septembre où tous les marchés, en gros, étaient d'accord pour que la chance de victoire de Trump, ça soit un tiers, à deux tiers maintenant. Et on voit que, enfin, c'est vraiment... Après, il faut voir que les actions américaines, c'est pas l'économie américaine.
Non.
Donc une victoire de Trump, c'est bon pour les actions. Alors parce
ça
que
dépend. Ça dépend les indices qu'on regarde. Est-ce que c'est bon pour le Nasdaq? Est-ce que c'est bon pour le Russell 2000?
Mais c'est bon pour tout le monde avec une baisse de taux de taux d'IS, d'impôt sur les sociétés, qui va être de l'ordre. Allez, à la louche. Trump parle de 15% effectivement. Donc ramener ce taux de taxe de 28 à 15. Imaginez effectivement l'impact sur les petites, les moyennes et les larges. C'est la même chose. Donc là, faut être. Il ne faut pas faire de discrimination, il faut acheter entre le marché américain.
Et même si le marché se fait peur sur les déficits américains, l'ampleur à venir des déficits américains, ça pourra rester bon pour le marché action.
La question, c'est que le déficit aujourd'hui est déjà titanesque. Honnêtement, quand vous regardez effectivement une économie américaine qui affiche un déficit budgétaire de 6-7%, aujourd'hui, ça fait même plus peur à qui que ce soit.
Bah non, même la pas France.
La France s'amuse effectivement à faire ça, c'est pas le même tarif, effectivement. Et donc, résultat des courses, pourquoi effectivement cette économie américaine, ce déficit ne fait plus peur? L'économie américaine génère de la croissance. On en parle parlais tout à l'heure, où se situe la croissance, où se situe l'innovation, elle se situe aux États-Unis. Et donc, est-ce qu'on va aller financer effectivement le déficit américain? Ben, la réponse est oui, en fait. Tout simplement, puisque c'est là-bas qu'on est sûr.
Et chaque euro de déficit, chaque dollar de déficit supplémentaire, en l'occurrence, générera toujours autant de croissance demain? Ou est-ce qu'il y a quand même l'idée à un moment?
Sous Biden, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en gros, le dollar de déficit supplémentaire, via effectivement ces politiques de promotion de l'investissement sur le sol américain, a généré de la croissance.
D'accord. Mais est-ce qu'il en génère autant qu'avant?
Même si ça ne génère pas de croissance, si vous avez un dollar de déficit en plus, vous avez un dollar en plus de revenus pour le secteur privé. Donc, ou pour les ménages, ou pour les entreprises.
J'entends.
C'est un prêt,
j'entends.
Si vous considérez...
J'entends.
Il faudra reprendre, mais...
J'entends.
Donc, c'est un cadeau à court terme pour le secteur privé.
Une seule question qui reste franchement en suspens, c'est celle... Enfin, je regardais ça tout à l'heure. C'est celle de ce qu'on appelle la dominance fiscale. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment donné, si on fait un simple calcul de comptable, vous rajoutez un peu comme ça toutes ces... tous ces milliers de milliards de déficit, on arriverait à un horizon 2035, à un truc, à un chiffre qui avoisinerait les 50 000 milliards de déficit. Bon, ça donne un peu le vertige. Et donc, dans ce cadre-là, qu'est-ce que fait la Réserve fédérale? Est-ce qu'elle est au service, effectivement, de l'État? Et donc, on revient finalement sur la question que Trump adore aborder, celle de l'indépendance de la Fed. Et en fait, un moyen de la rendre dépendante sans effectivement la briser ses statuts, c'est de dire...
C'est de gonfler le déficit.
Exactement. Oui. Et donc là, on rentre dans une vieille thématique du financement du seigneur.
L'instant, il y a une coïncidence d'intérêt. C'est-à-dire que la désinflation permet à la Fed de se donner un peu de marge de manœuvre et d'en donner aussi au Trésor américain.
À ceci près, qu'encore
une fois... Si demain, l'inflation arrête de baisser... Est-ce que
ce qui va être le cas.
Voilà. Donc, est-ce que la Fed peut continuer
du taux terminal? Et d'accord. Donc, si vous avez un taux terminal à 4, c'est compliqué d'avoir un déficit qui croît.
Et c'est là le risque Trump pour les actions ou pour les actifs financiers. Le plus gros risque aux États-Unis, en tout cas, c'est s'il y a des doutes sur la Fed, en fait, et sur l'indépendance de la Fed, et donc un désancrage des taux longs. Et dans ces cas-là, ça sera plus bon pour les actions américaines.
Le job le plus facile du monde, hein. C'est ce qu'il a dit la semaine dernière. Hein.
Mais Lagarde l'a invité à venir...
J'ai vu la réponse, génial. Parce qu'il dit, une fois toutes les 6 semaines, vous êtes Dieu sur Terre, il suffit de lancer une pièce en l'air pour savoir s'il faut monter ou baisser les taux.
Magnifique.
Donc on a demandé à Christine Lagarde ce qu'elle en pensait hier, et elle a répondu, j'invite Donald Trump à venir voir comment on travaille à la Banque Centrale Européenne pour préparer des décisions de politique monétaire. Parlons des entreprises, Julien, là, on est au début, en tout cas en cours de publication de résultats et de chiffres d'affaires. Qu'est-ce qui saute un peu aux yeux? Ben, il y a évidemment le facteur chinois, là on parle de L'Oréal aujourd'hui, il y a eu l'épisode de LVMH déjà. Est-ce que le marché peut quand même se dire que ces chiffres appartiennent au passé et que l'histoire chinoise change, notamment depuis le 24 septembre et le début d'un rythme d'annonce soutenu? Qu'est-ce que vous dites
sur la Chine? Objectivement, j'y crois pas beaucoup en fait à la relance. Après, ça stabilise, c'est déjà une bonne chose. Hein. C'était quand même l'enjeu. Après, sur une reprise forte de l'économie chinoise, ça, clairement, j'y crois pas du tout. Parce qu'on a un environnement évidemment qui est complexe chez eux. L'immobilier, il y a des stocks de plus de 2 ans de logements vacants, donc ça va pas se résorber du jour au lendemain.
90 millions de logements vides.
Ouais, c'est monstrueux. Donc on a quand même ces phénomènes-là qui va perdurer quelque temps. Plus les sanctions économiques, les tensions géopolitiques. Enfin tout ça fait qu'on est quand même dans un environnement qui est assez compliqué pour une reprise rapide de l'économie chinoise.
Donc vous n'attendez pas d'effet d'entraînement particulier pour des entreprises européennes exposées au marché chinois, par exemple?
Non, et puis aujourd'hui, les Chinois, l'économie chinoise devient presque un problème, notamment sur l'automobile. On voit toutes les discussions, BYD qui arrive en Europe de manière de plus en plus agressive. Donc je dirais que c'est plus un relais de croissance, en tout cas pour les constructeurs européens. C'est devenu un problème.
Ça devient de plus en plus frictionnel.
Et maintenant, ils viennent les attaquer chez eux. Ouais. Donc, je dirais que parce qu'ils n'ont plus, la demande aussi forte chez eux, donc ils vont chercher à l'extérieur. Et là, ça devient, je dirais, pour certaines sociétés européennes, ça, c'est plus l'Eldorado, c'est devenu un problème.
Ouais, c'est ça. La coupe est pleine même.
Ouais, donc on a un petit peu inversé, en tout cas les perspectives de ce point de vue-là.
Et ça veut dire pour le luxe concrètement, parce que, enfin, pour qu'on en parle, parce que c'est quand même un secteur important, c'est que des poids lourds type LVMH ou L'Oréal, ça compte beaucoup dans la cote européenne et française. Enfin, oui, le rythme de progression boursière du luxe des dernières années est totalement anormal, était totalement anormal par rapport à la norme qu'on aura demain, là, dans les prochaines années. Le cycle est différent désormais.
Ah, vraisemblablement, sauf si on a des pays comme l'Inde qui se mettent à prendre le relais de manière importante, mais en tout cas à court terme, on aura effectivement, ça se voit dans les multiples, hein, LVMH qui était à plus de 30 fois, on est revenu autour de 20. Ce qui est bon an, mal an, la moyenne historique. Hein. Ouais. Donc, il n'y a rien d'aberrant.
Ça nous ramène à des rythmes qu'on pouvait connaître, enfin des PE et des rythmes de progression qu'on pouvait connaître avant les années folles Covid et post-Covid, surtout.
Exactement. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas des bonnes sociétés.
Non,
ce que je dis, mais c'est sûr que les rythmes de croissance très importants qu'on a pu connaître, voilà. Et c'est pareil sur l'automobile, hein, pour faire le lien. Il y a quelques années, je me rappelle, quand le secteur automobile faisait 4, 5, 6 de marge opérationnelle sur les constructeurs de masse,
c'était la gloire.
Très bien. Et puis, il y a eu le Covid, les problèmes de logistique, et puis on est monté dans certaines zones à des taux de marge à deux chiffres. Et puis bon, on se rend compte que finalement, quand ça se normalise, tout ça, c'était pas le new normal, n'était pas.
D'ailleurs, les PE du secteur n'ont jamais acheté l'idée que les marges à deux chiffres allaient devenir la norme pour les constructeurs et assembleurs automobiles. Hein.
Ça, c'est vrai.
Le marché a été assez visionnaire là-dessus.
Donc voilà. Après, il y a eu quand même des.
Des histoires.
Les produits, vous voyez, tous les structurés, par exemple, qui ont été faits sur le secteur automobile, il y en a eu beaucoup. Je ne suis pas sûr que les autocalls vont être appelés à échéance. Quoi.
Oui.
Voilà, on verra les niveaux de barrières désactivantes, mais en tout cas, oui, ça va être...
Bien vu. Ça a été un sous-jacent privilégié pour la construction de produits structurés.
Toujours le pétrole, les banques, enfin les financières, et puis l'automobile, les grands classiques. Ouais. Voilà, même s'il y a d'autres choses à faire, mais en tout cas, oui, c'était des sous-jacents privilégiés. Donc là-dessus, c'est sûr que ça va être un peu compliqué pour revoir le prix. La Chine, non, on n'y croit pas particulièrement. On en avait un tout petit peu quand c'était très bas, en se disant il y a peut-être un call value à faire. Bon, on a eu la chance de voir un rebond un peu fantastique.
Mais ça y est, c'est déjà un point de sortie pour vous, quoi.
Oui, on est déjà sorti.
Ouais, c'est ça.
On est sorti très rapidement parce qu'on s'est dit bon, c'était un call value pour dire que on rejouait quelque chose. Mais
même le signal de marché, vous n'avez pas envie de suivre plus que ça.
Non.
Ouais, j'entends. Signal de marché, signal macro, qu'est-ce que vous dites de la Chine ?
Signal macro est très faible. C'est-à-dire qu'en gros, le problème qu'on a, c'est qu'on a une politique monétaire qui a un seul objectif, on va dire expansionniste, avec toutes les mesures qui ont été mises en place, c'est d'enrayer la déflation immobilière, mais ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu, parce que le décalage entre le stock d'offres et finalement et la demande, il est tel que finalement les pressions déflationnistes, elles sont toujours là. Le problème aussi, c'est que quand vous regardez la croissance de la masse monétaire, qui est un peu en fait une espèce d'indicateur des tensions nominales aussi qui peut régner en Chine, pour la première fois depuis que la série existe, en gros, la croissance de M1 est passée en territoire négatif. Donc du coup, ça veut dire que là, il n'y a pas que le secteur immobilier qui subit de la déflation, il y a possiblement toute l'économie, en fait. Et en fait, le problème, il est là. Et donc ça explique, et c'est effectivement...
On détruit la base monétaire, là.
Oui, absolument. Donc là, en fait, c'est inédit, en fait, pour une économie, effectivement, de la taille de la Chine. On n'a jamais vu ça, en fait, depuis que la série existe. Et donc du coup, parler, effectivement, de croissance des bénéfices, d'une consommation qui pourrait augmenter dans ce contexte-là, un contexte de défiance de consommation, finalement, des consommateurs chinois, qui sont en train de subir exactement l'opposé de ce que subissent, effectivement, les consommateurs américains, c'est-à-dire un effet de richesse négatif, c'est compliqué. Donc c'est extrêmement compliqué pour eux. Et donc... Ce qui manque, le signal macro, pourquoi je dis qu'il est faible, il manque effectivement pour que ça fonctionne la seconde patte effectivement du plan, la politique budgétaire expansionniste, qui, encore une fois, au-delà effectivement des promesses en quelque sorte, et qui sont encore très vagues et très floues à ce stade, on n'a rien en fait à se mettre sous la dent. Et le marché n'a rien à se mettre sous la dent. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Le rebond du marché à actions après la publication des annonces, commence effectivement déjà un peu à se tirer. Bon, le rebond est exagéré, évidemment. Donc, quand on voit plus 25, c'est normal qu'on normalise un tout petit peu. Mais globalement, là aussi, la remontée des taux qu'on avait observé, on se dit, finalement, on a un call croissance grâce à cette politique monétaire. Là aussi, il est aussi en train de s'étioler par ailleurs. Donc, Le marché s'impatiente et le marché n'aime pas attendre. Donc là, du coup, à un moment donné, s'il n'y a pas une réaction, entre guillemets, de la politique budgétaire de Xi Jinping et de l'administration, on risque effectivement de détériorer, entre guillemets, cet espoir de momentum positif au niveau macro.
Une comparaison qui m'a frappé là ces derniers jours, c'est de voir que le rendement de l'obligation d'État chinoise à 30 ans est équivalent au rendement de l'obligation d'État japonaise à 30 ans aujourd'hui. Il y a une convergence de niveau entre ces deux pays.
Absolument, mais le ménage chinois en a assez d'être baladé, d'accord, entre les marchés actions qui marchent pas, marché immobilier qui marche pas, donc qu'est-ce qu'il fait? Il achète l'obligation d'État.
Oui.
Alors moi je suis
sur la Chine quand même.
Un peu plus positif.
On commence à parler de Chinomics. Il y a quand même l'idée d'un plan un peu de long terme, j'en sais rien, mais il y a quand même l'idée d'un plan un peu stratégique là, j'ai l'impression parfois chez certains en tout cas.
Structurellement, on voit pas ce qui change et on voit pas ce qui pourra améliorer, donc à moyen terme, ça reste
L'histoire structurelle change pas.
Non, c'est très compliqué et l'histoire surtout de la recentralisation en fait de toutes les décisions et tout ne change pas. C'est intéressant de voir qu'ils vont recapitaliser les banques publiques, et c'est les grandes banques publiques qui sont recapitalisées. Ce n'est pas les banques qui ont des problèmes.
Non. C'est les banques qui sont déjà surcapitalisées. Même.
Exactement. Mais c'est celles où c'est l'État qui choisit.
Et c'est quoi le message? C'est on va rendre encore plus fort nos banques publiques
qui vont s'occuper.
D'accord. OK.
C'est ça le message.
D'accord.
C'est le président qui décidera où va être distribué le crédit, tout ça. Donc, c'est pas bon pour le long terme. Ça, je suis d'accord. Après, à court terme, donc on attend les mesures budgétaires.
Ils ont créé tellement d'attentes. Je n'imagine pas qu'un pouvoir comme celui de Pékin ne délivre pas quelque chose sur ces aspects-là.
Et avec un engagement du Politburo, c'est-à-dire du président Xi directement.
Bien sûr.
Et donc, j'ai du mal à penser qu'ils ne vont pas délivrer ce qu'il faut pour que ça tienne à court terme.
Il y a le 5 novembre. Peut-être qu'il laisse passer aussi une date, une élection présidentielle américaine pour y voir
ça,
un peu plus clair aussi.
Il y a aussi que pour annoncer des mesures budgétaires, il faut les voter quand même.
Ah.
Et que.
J'avais pas ce détail.
Le congrès du parti communiste chinois, c'est à la fin du mois d'octobre.
Ouais, c'est ça. En fait.
Et donc, même si. Enfin, pour annoncer vraiment une augmentation du déficit cette année ou des nouvelles émissions, il faut attendre ce comité. On ne sait pas exactement quand c'est, mais c'est fin octobre, début novembre.
Mais vous dites, là, la balle est dans leur camp. Ils ne peuvent pas ne pas délivrer, au moins en partie, sur les attentes qu'ils ont créées.
Exact. Enfin, c'est ce que on pense.
Ouais, ouais.
Et comme le marché reste peu cher, même si...
Oui, ça peut encore provoquer des...
On pense qu'à court terme, il y a encore quelque chose à jouer et ça devrait relancer l'économie à la fin de l'année, début de l'année prochaine, un peu... avant qu'on reprenne la tendance faible de l'économie, de l'affaiblissement de l'économie chinoise.
On va rentrer dans le moment de publication des grandes valeurs technologiques aussi américaines. Julien, les banques US, je crois que ça s'est plutôt bien passé. Très bien même. Le luxe français, bien sûr, qui connaît des difficultés sur la partie tech. Là aussi, vous le soulignez tout à l'heure, ce qui a ramené quand même le S&P au plus haut, c'est aussi les valeurs technologiques. Elles n'ont pas totalement disparu du paysage. Qu'est-ce qu'on peut dire des attentes sur ces valeurs et est-ce qu'elles ont encore la capacité d'être des moteurs de marché comme elles le sont depuis une bonne paire d'années maintenant?
Ça dépend vraiment des sociétés, puisqu'on a des modèles très différents. C'est vrai que si on regarde un Microsoft avec la partie SaaS, etc., donc un modèle assez résilient, entre guillemets, on peut s'attendre en tout cas à ce que ça continue de bien se passer. D'NVIDIA, c'est toujours le même sujet, ça reste une activité cyclique. Bon, en ce moment, ils ont le monopole, tout va bien, ils sont les seuls à avoir la technologie. Donc, je pense que le KMD commence à pousser une puce qui pourrait concurrencer, en tout cas, la nouvelle génération de puces d'NVIDIA, avec le soutien, d'ailleurs, des gros investisseurs sur l'IA.
Oh, tu parles, oui, j'imagine. Ils veulent tous voir un concurrent. Mais ça veut dire que le signal ASML, c'était peut-être pas le bon signal à suivre sur l'IA.
Non, parce que ASML, il y a quand même un gros sujet, c'est l'effet des sanctions internationales.
Ouais. On en a beaucoup parlé, le patron de ASML.
Passer de presque 49% de ventes en Chine à 20 et quelques pourcents, forcément, ça a un petit peu d'impact, c'est assez logique. Après, sur le reste, sur ASML, on reste sur une société de cycle long, avec un carnet de commandes bien rempli. Je suis plus à l'aise sur ASML que sur NVIDIA.
D'accord.
Clairement, parce que la...
Plus de visibilité.
Puis la probabilité qu'ils se fassent attaquer sur leur marché, elle est quand même très très faible. Contrairement à NVIDIA, où on est
tout
pas
le monde leur court après, quoi.
Tout le monde essaye. Après, ils y arriveront à vitesse, j'en sais rien. Mais en tout cas, mais ça reste une valeur cyclique. On est dans le super cycle. et avec des valos de valeur où le cycle ne s'arrêtera pas. Voilà. Donc, c'est toujours un sujet. Combien de temps ça dure ? C'est toujours la même chose. Hein, mais voilà, donc c'est plus sur cette valeur-là où je serais le plus prudent. Parce que pour le reste, globalement, je n'ai pas d'inquiétude particulière sur ce qui va sortir. Donc, ouais. C'est vraiment ce point-là. Nvidia, je pense, et ASML, effectivement, bon, ils ont revu en bas de fourchette. Mais bon, voilà, on est revenu juste sur une valo un peu plus correcte. Et puis. Tout comme nous, on a plutôt acheté sur la baisse.
Ah, d'accord. Okay.
Voilà, en considérant que c'était plutôt un point d'entrée. Alors, c'est vrai qu'à 1000 euros, ça faisait un peu peur en valorisation, mais autour de 600, 650, ouais. Bon, ça reste des prix sur une société où il y a quand même une très belle visibilité. Mais c'est vrai qu'il y a eu des messages négatifs aussi des deux opérateurs qui devaient construire des capacités en Europe, donc Intel. Et le deuxième, j'oublie le nom.
Oui, il y en a eu un autre. Ouais.
Donc c'est vrai que c'est des perspectives en moins, mais globalement, il y a une demande de ce.
Mais il y a TSMC aussi qui a publié entre-temps. Exactement. Et qui nous dit que c'est encore booming.
Donc il y a pas de, on n'a pas d'inquiétude particulière.
Sur la logique de marché d'investissement, est-ce qu'on sort quand même un peu ? Alors on parlait de la décote, de large entre l'Europe et les États-Unis. L'innovation est aux États-Unis, la croissance est aux États-Unis. Tout ça est bien acquis. Est-ce que néanmoins, le régime de marché peut évoluer. On a beaucoup parlé de l'idée de la diffusion du rallye, de voir peut-être d'autres secteurs prendre leur part aussi à la hausse, d'autres tailles d'entreprises aussi participer à la hausse du marché. Vous êtes encore dubitatif sur ce point-là?
Je suis assez dubitatif. Après, il y a du stock picking à faire. Hein, ce qu'on disait, il y a un peu de différenciation de performance entre les acteurs. Alors, je parlais d'un dossier dont on n'a pas parlé, mais si vous comparez Deutsche Telekom et Orange...
Oui.
Bah, Deutsche Telekom, il y a une vraie histoire. Ouais. Alors, il se trouve qu'ils sont actionnaires de T-Mobile US.
C'est toujours T-Mobile US qui fait la croissance de Deutsche Telekom.
C'est ça qui fait la performance. Oui. Mais en tout cas, si vous avez fait le stock picking en disant « je fais des télécoms », tout le monde va vous dire « il se passe rien là-dessus ». Bien, finalement, si vous aviez choisi la bonne, vous avez fait une très jolie performance cette année.
Oui. Adidas, Unilever, Nestlé. Multiplier les exemples comme ça dans chaque secteur.
Il y a quand même des choses qui se passent. Après, il y a des choses assez basiques. Hein. Unilever, ils sont assez très présents même en Inde et au Brésil. Bon, bah, c'est deux pays où il faut être. Ouais. Voilà, bon, c'est assez basique. Hein, mais, et puis, bon, ils ont fait un gros travail aussi sur leur portefeuille, etc. Il y a eu du boulot de fait que Nestlé va devoir faire aujourd'hui. Oui, effectivement, il y a des opportunités, il y a des niveaux de valorisation qui ne sont pas toujours très élevés. Je pense que sur ces marchés un peu training range, il faut accepter parfois d'être un petit peu contrariant, pas que, mais il faut l'être un petit peu. Et il y a des choses en tout cas qui sont... vous voyez, les banques, typiquement, quand on a eu le début de la baisse des taux, on dit « oh là là, c'est la catastrophe ». Tout le secteur a commencé à baisser en disant que si les taux baissent, il ne faut plus avoir du secteur-là. Bon, bah, les banques d'Europe du Sud, ça continue de bien se passer. Si on regarde un Crédit Agricole, il y a une grosse partie des revenus qui sont liés quand même au FIS, plus que la marge d'intérêt. Donc, il n'y a pas de catastrophe. Ça vaut
là aussi, fois en fonction des modèles, des positionnements des uns et des autres, oui, bien sûr.
Il y a des choses à faire. Et le secteur bancaire, clairement, est faiblement valorisé.
Et ça fait quand même 2 ans que c'est un secteur leader dans la progression boursière.
C'est toujours l'intérêt quand vous allez peu considéré comme cyclique. Ah ouais. Quand on est faible PE, chaque trimestre de cash flow... positif, vu votre génération de free cash, c'est important sur la performance.
Et plus depuis combien de trimestres est-ce que les analystes revoient en permanence à la hausse les résultats
sur les
du secteur bancaire? Mais ça fait
européen,
peut-être 2 ans maintenant. Hein.
Pour le secteur européen, d'ailleurs, sur le stock 600, c'est le secteur financier
qui revise le plus à la hausse.
Qui sera qui aura la plus forte croissance d'anticiper.
Mais ce que Julien disait effectivement sur ce picking effectivement différenciant à faire, c'est valable également sur les géographies. Hein, donc, encore une fois, j'ai presque envie de dire Espagne versus effectivement Italie. Hein, donc, ça marche aussi. Donc, zone euro versus
Italie. Espagne versus Italie, d'accord.
Okay. L'Espagne, j'entends. Pourtant, on a aussi un gros call bancaire, mais il y a aussi beaucoup d'utilities, il y a moins d'exposition au secteur manufacturier, etc. Donc, il y a une histoire macroéconomique derrière l'Espagne qui tient bien. Et une forme d'immunisation à tout le chaos finalement que peut subir la zone euro. Et l'Espagne fait partie, tu vois, l'IBEX, des rares indices à voir des révisions positives au niveau de ses bénéfices pour cette année.
Ah, oui.
On l'Italie ou la France. Pour la France, c'est une histoire un peu particulière.
On va finir à zéro, nous, en bénéfices.
Moins négatif.
Ce qui paraît.
Donc, pour garder le consensus.
Oui.
Mais les attentes, effectivement. Mais encore une fois, c'est petit, mais ça reste effectivement négatif. Donc, en fait, cette thématique relative value, en quelque sorte, hein, États-Unis, Europe, etc., Chine versus effectivement d'autres pays d'Asie émergente, nous, c'est ce qu'on joue, en fait, fondamentalement. On a une neutralité dans nos portefeuilles sur les principales classes d'actifs, mais au sein de ces grandes classes d'actifs, bien évidemment, on différencie complètement l'histoire américaine de l'histoire européenne. Aujourd'hui, ne pas acheter finalement le marché américain dans le contexte que l'on connaît, c'est-à-dire en gros d'investissements massifs qui seront promis par les deux candidats.
Ce serait une faute.
C'est une faute lourde.
Oui, c'est une faute lourde. Non, mais j'aime bien. C'est intéressant quand même de revenir aux fondamentaux et aux bénéfices des entreprises. Là, c'était un gérant qui me rappelait sur LVMH. LVMH marque son top de marché boursier en avril ou fin mai, avril 2023, à plus de 900 euros. Le point haut des anticipations de bénéfices pour 24 et 25 se fait un mois après, en juin. Depuis juin 2023, le consensus des analystes n'a cessé de réviser en baisse, mois après mois, trimestre après trimestre, les perspectives bénéficiaires de LVMH. Donc un mois avant, le marché a décidé que c'était le top. Et un an et demi après, oui, effectivement.
Le temps que les analystes...
Le marché a bien vu quand même, je trouve. Parfois, le marché est assez visionnaire. Bah, qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans les marchés, là, effectivement, aujourd'hui, Xavier?
C'est d'attendre deux semaines. Non, mais, soyons clairs, on peut dire ce qu'on veut, mais ça va être un vrai game changer. Ouais. Donc avant ça, on préfère ne pas être trop brave.
Parce que ça peut changer les choses à ce point-là. Ça peut changer la logique d'investissement.
Vraiment. Et puis, alors, en fonction de qui est élu
et de la composition du Congrès,
et ainsi de suite. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être investi avant, mais ça veut dire qu'il faut être très diversifié et pas prendre trop de risques en surpondérant ou sous-pondérant. Parce que ça va changer beaucoup. Et une des différences par rapport à 2016, c'est qu'il y a déjà pas mal de Trump pricé, j'allais dire, dans le marché, et donc ça peut bouger dans les deux sens.
Puis on sort déjà d'un épisode inflationniste qui a un peu marqué les esprits. En 2016, on était plutôt dans l'idée d'être content d'avoir un peu de reflation.
Exactement.
Mais donc, c'est aujourd'hui, je sais pas.
Ça peut bouger dans les deux sens.
Ouais. Bon, rendez-vous après le 5 novembre. On se verra après, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir, en tout cas, les trois invités de Planète Marché. Xavier Chappard, LBPM, Julien Kistrebert, Taylor Asset Management, et Mabrouk Chetouane, Natixis IM.